France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. L'administration Trump menace de surtaxer certains produits français jusqu'à 100%. Il s'agirait de droits de douanes additionnels en riposte à l'instauration en France d'une taxe sur les géants du numérique. La taxe GAFA, qui touche principalement les entreprises américaines, pourrait donc être surtaxée au printemps prochain en riposte. Le célèbre Roquefort français, le vin pétillant ou encore les sacs à main. La rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron aujourd'hui à Londres sera donc scrutée avec une attention particulière après ces annonces. Cette rencontre s'y déroule dans le cadre du sommet de l'OTAN. Il doit durer 2 jours à Londres donc. Le gouvernement chilien propose un plan de 5,5 milliards de dollars pour tenter de résoudre la crise sociale qui agite le pays depuis 46 jours. 5,5 milliards de dollars pour l'année 2020, alors qu'hier la Banque centrale annonçait qu'un effondrement de l'activité économique chilienne avait lieu en ce moment, effondrement de 3,4% en raison de la crise dans le pays. En France, voilà une nouvelle qui pourrait attiser un peu plus la colère des cheminots à 2 jours de la mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites. À partir d'aujourd'hui, les régions vont pouvoir lancer des appels d'offres pour ouvrir à la concurrence certaines lignes régionales, lignes ferroviaires, le TER notamment. L'idée est de les rendre plus rentables. La SNCF a déjà indiqué qu'elle participerait à tous les appels d'offres. L'ancienne eurodéputée Modem, Sylvie Goulard, a été mise en examen vendredi pour détournement de fonds publics. Nous l'apprenions hier. Il s'agit de l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants de députés européens. Et puis le bilan des intempéries dans le Var est lourd. 6 personnes sont mortes depuis ce week-end. Hier, des rochers se sont encore effondrés sur 3 maisons. Une femme de 61 ans est toujours portée disparue ce matin. La vigilance orange est levée pour le sud-est de la France.
Et si on changeait l'école ? Source de tous les questionnements, l'école n'a jamais été aussi critiquée. France Info et Oui Demain vous invitent le 10 décembre à la première édition des forums éducation. Avènement du numérique, apport des neurosciences, engouement pour les pédagogies alternatives, l'école fait sa révolution. Venez écouter et échanger avec ceux qui inventent déjà l'école de demain. Mardi 10 décembre à 19h à la Maison de la Radio. Et si on changeait l'école, un événement France Info et Oui Demain. Réservation sur maisondelaradio.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, nous retrouvons Tofik Hakem.
Le réveil culturel. Tofik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Tôt le matin à la radio, ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast, disponible entre autres sur franceculture.fr. Corinne Amar à la coordination, Vincent Bouchard à la réalisation, avec ce matin la prise de son Marie-Claire Oumabadi. Et tous les mardis, dans le réveil culturel, c'est l'actualité des expos. Et aujourd'hui, cap sur Marseille, à la Friche de la Belle de Mai, qui organise un événement multiple autour des prisons, de notre rapport aux prisons de la République, telle qu'elle est vécue à partir de ces endroits de prison. Prison miroir, c'est le titre de cette manifestation qui propose 2 expositions photographiques réalisées dans des prisons et à l'École nationale de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire d'abord Détenus de l'artiste Bettina Reims, et puis l'exposition de l'artiste Arnaud Théval, Un œil sur le dos. Arnaud Théval, qui est notre invité ce matin. Et en plus de ces 2 expositions, il y a aussi une rétrospective de films produits et réalisés par Caroline Cacaval et Joseph Cesarini avec des détenus, et depuis un studio de cinéma qu'ils ont installé il y a quelques années à la prison des Baumettes. Alors toute cette manifestation autour des prisons, ainsi que des débats, des rencontres, montre est organisée à la friche de la Belle de Mai jusqu'au 23 février. Mais mon invité aujourd'hui est Arnaud Théval. Arnaud Théval est un artiste photographe depuis des années. Il concentre son travail sur les prisons. On se souvient qu'il était celui qui a photographié les prisons fraîchement abandonnées pour essayer de capter les signes des prisonniers. Là, il a fait exactement le contraire. Il a d'abord suivi la formation des gardiens de prison et puis il est allé les accompagner dans ces nouvelles prisons en attendant l'arrivée des détenus. Arnaud Théval sur France Culture et dans le Réveil Culturel, c'est parti.
Le Réveil Culturel, mardi, Expo.
Arnaud Théval à Marseille, à la friche de la Belle de Mai, c'est-à-dire dans les lieux mêmes de son exposition « Un œil sur le dos » jusqu'au 23 février, dans le cadre de ce grand moment « Prison miroir » organisé par ce lieu.
On est où, Arnaud Théval? C'est quelle prison?
On est dans les nouvelles prisons, celles qui ont ouvert un peu partout en France, à la périphérie des villes, au milieu des campagnes, au milieu des forêts. Et on est face à des images qui sont un peu énigmatiques parce que finalement, il y a très peu de signes qui distinguent cet établissement, en tout cas ces images-là, des images qu'on peut avoir de la prison. C'est-à-dire que les prisons, celles qu'on a dans notre imaginaire, sont celles du 19e. Enfermées, puantes, suintantes de douleurs, etc., etc., et surtout en centre-ville. Donc là, ce qui est un petit peu paradoxal dans les nouvelles prisons, c'est qu'on a réussi, les architectes ont réussi à produire des bâtiments très lumineux, très colorés, qui permettent au personnel d'avoir des conditions de travail bien meilleures. Et puis, évidemment, pour les détenus, il y a des conditions d'enfermement peut-être un peu meilleures. Ce qui est un petit peu étrange quand on arrive dans cet établissement-là, c'est qu'on ne sait pas exactement si on arrive dans une prison ou si on arrive dans un collège ou si on arrive dans un hôpital, etc. Il y a une espèce de jeu qui brouille certaines limites.
Toutes ces deux images, surtout celle-ci, où on voit des néons posés par terre, on ne sait pas où on est. Ça aurait pu être un hôpital, une administration. Et pourtant, c'est une nouvelle prison, mais qui n'a pas encore ouvert.
C'est une prison qui attend ses clients voyous, comme certains personnels de pénitentiaire le disent. Les détenus sont pas encore arrivés. On est en attente d'un premier transfert. Ils sont sur place depuis 6 mois. La prison tourne à blanc. Alors c'est très impressionnant parce que les personnels sont dans une attente, une impatience. Ils attendent celui qui manque et la prison manque parce que
ils appréhendent un peu.
Alors ils appréhendent et en même temps ils sont très excités. Alors ils appréhendent parce qu'ils ont des cultures pénitentiaires très différentes. Ils arrivent d'établissements qui ont connu des organisations très différentes. Ils ont tous leur petite idée sur comment ça fonctionne. Et puis on a une direction qui travaille cette idée d'organisation, qui se met petit à petit en place et les premiers détenus arrivent.
Arnaud Théval, artiste photographe sur France Culture, dans le Réveil culturel, qui nous parle de son exposition « Un œil sur le dos » jusqu'au 23 février à Marseille, à la friche de la Belle de Mai, qui organise donc un grand événement multiple autour des prisons. Vous avez passé 4 ans avec eux, et particulièrement avec les élèves surveillants, comme si vous vouliez les accompagner de la formation jusqu'à la pratique de leur métier. Arnaud Théval, pourquoi avoir choisi ce sujet?
Alors j'ai été happé par cette question de l'enfermement, qui est une récurrence dans mon travail artistique, hein, puisque j'ai beaucoup travaillé sur comment, par l'art, en agitant l'espace social, on peut réveiller le politique, c'est-à-dire comment on peut réfléchir à comment les stéréotypes se construisent, comment les enfermements et les assignations se fabriquent. Et à la prison, j'étais happé par la question de la fermeture de ces vieux établissements. Et dans le récit que me faisaient les personnels sur mes images, que je ne comprenais pas, ils sont tous passés par un point central qui est l'École nationale d'admission pénitentiaire, l'école de la prison, dans laquelle on forme à la culture pénitentiaire. Et j'ai trouvé intéressant d'inverser le ton, c'est-à-dire de m'intéresser précisément à comment ça se passe, une formation d'une personne qui est incorporée dans cette institution-là, quand on remet un uniforme. Qu'est-ce qu'on peut apprendre finalement en allant fouiller au fond des poches de ces personnels-là? sur qu'est-ce que ça veut dire de travailler en prison, d'être confronté à sa violence, à sa poésie, à tous ces débordements d'humanité qui sont permanents dans les prisons.
Vous dites poésie aussi ?
Je dis poésie parce que ce qui est très paradoxal dans la prison, c'est qu'on en a une image évidemment radicale. Alors, qui est à la fois fait de réalité, de violence, mais aussi beaucoup de fantasmes. Et dans les relations, et notamment dans ces nouvelles prisons qui arrivent, j'ai été saisi, comme j'ai pu être saisi dans les vieilles prisons, par comment le vivant prend place dans un espace où tout est potentiellement maîtrisable ou maîtrisé. C'est-à-dire, les premiers détenus qui arrivent, comment ils prennent place dans leurs cellules, comment d'un seul coup ils rejouent leur rôle de détenu, avec certains stéréotypes qui eux-mêmes, ils sont presque eux-mêmes assignés à certains stéréotypes, et comment les personnels également se retrouvent une position ou cherchent une position qui peut-être est une répétition du même, et en même temps, dans ces nouveaux établissements, dans ces nouvelles cultures qui sont en train de se construire, je pense notamment au bâtiment Respect qui permet d'autres relations dans les maisons d'arrêt, eh bien, les personnels changent de place. C'est-à-dire que dans certains établissements, les détenus en maison d'arrêt ont la clé de leur cellule, ce qui est un changement de paradigme incroyable par rapport à ce qu'on peut attendre d'une maison d'arrêt classique, on va dire. Et puis forcément, la relation entre le personnel de surveillance et le détenu n'est pas exactement la même, parce qu'il n'y a pas cette unique... alors c'est faux ce que je dis, parce que les personnels ont énormément de tâches et très différentes, mais on va la réduire à « j'ouvre et je ferme une porte », ce qui évidemment est totalement erroné. Donc les personnels se réinventent dans une relation avec le détenu qui peut-être est un petit peu différente. Mais c'est très compliqué de le raconter, ça, parce que entre ça et nous, il y a un écran. C'est le titre de la pièce, l'écran. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous empêche d'aller attraper au fond de leur récit des éléments d'une rencontre poétique ? C'est-à-dire comment le vivant s'installe dans ces lieux-là et comment il y a une certaine poésie aussi qui peut s'y nicher.
De poésie, il y a une photo où vous avez décidé de braquer votre objectif sur les tatouages des gardiens. Dans une autre photo, c'est carrément des gardiennes avec des masques, comme si c'était un carnaval, comme s'il y avait eu un carnaval dans la prison. Ce sont des photos mises en scène.
Alors, toutes les images qui impliquent du personnel de surveillance, ce sont des mises en situation que j'ai négociées avec des élèves à partir de points qui m'ont semblé être intéressants d'aller questionner à l'école de la prison, notamment la figure de la femme surveillante qui est quand même quelque chose d'assez intriguant, parce que finalement le maton, comme on l'appelle vulgairement, c'est quelque chose d'assez péjoratif hein, dans nos représentations. Alors quand on est une matonne, c'est encore plus inquiétant, d'autant que les femmes surveillent les hommes et pas l'inverse. Alors évidemment ça je ne l'invente pas, hein, j'ai pu le lire dans un texte de Cécile Rimbourg, une sociologue qui a écrit sur la féminisation du corps de la pénitentiaire, à l'arrivée des femmes progressives, les difficultés que ça engendre, etc. Donc je me suis appuyé sur ce sujet-là pour questionner la représentation des femmes surveillantes. Alors il y en a plusieurs images dans l'expo qui ponctuent ça, notamment ces femmes masquées comme ça, où on voit, elles ont des masques de carnaval. Alors ça part d'un malentendu. J'ai proposé à une promotion d'élèves surveillants, aux femmes de la promotion, de venir pour travailler sur différentes figures de la femme surveillante, la femme la moins femme possible, parce que finalement on leur donne des uniformes qui sont des uniformes unisexes, hein, donc elles ont peut-être un uniforme qui leur fait donner des compétences de sûreté, comme les hommes on va dire. Et puis dans notre imaginaire commun, le surveillant c'est le bourreau, hein. Ça reste encore un petit peu ça. Et donc l'idée, c'était de travailler à cette représentation de la figure du bourreau, parce que j'avais vu sur les casiers des vestiaires femmes dans les maisons d'arrêt, celles qui viennent de fermer, des représentations d'elles avec des figures maléfiques. La méchante sorcière dans Blanche-Neige, etc. Et alors c'est elle-même qui s'attribue comme ça des représentations caricaturales. Et puis l'idée était de se fabriquer des masques comme ça pour accentuer cette figure comme ça du bourreau. Et ces trois femmes-là ont mal entendu et ont attaché des masques de carnaval. Donc j'étais un petit peu embarrassé lorsqu'elles sont arrivées avec leur masque de carnaval parce que finalement je savais pas trop quoi faire de ça. Et puis finalement on a réussi à trouver cette pose comme ça, avec une mise en scène, avec une machine qui fait de la fumée, etc. Et elles sont très elle surjoue peut-être le côté féminin en montant sur leurs rangers qui deviennent presque des talons, des chaussures à talons. Donc c'est très précieux, vous voyez, ce jeu-là. Et puis avec évidemment ces gestuelles des mains légères, etc. Et ces masques, et puis ce regard qui nous regarde. Et puis tout autour, ces figures ces figures maléfiques de Walt Disney, là, comme ça. Donc elle se ferait un chemin entre finalement une figure maléfique, une image de surveillante qui doit rentrer dans un corps, dans un uniforme d'homme, et puis leur propre féminité.
Et enfin, les tatouages, là on est dans ces Jean Genet qui continuent, mais cette fois-ci ce ne sont pas les prisonniers qui sont tatoués, ce sont même les gardiens.
Alors ce travail sur les tatouages, il émane d'une image qu'a fait réagir des personnels de surveillance lors d'un précédent travail sur le choc carcéral. Dans cette image-là, il y avait sur le cou d'un élève surveillant un tatouage maori qui sortait, etc. Moi, j'avais pas du tout perçu l'enjeu du tatouage, sauf que quand on regardait bien dans les signes de l'école d'insertion pénitentiaire, il y avait déjà des affiches qui nous parlaient du tatouage des détenus, parce que finalement, dans notre imaginaire commun, celui qui peut-être encore appartient au 19e siècle, hein, le tatouage appartient aux voyous. C'était les voyous qui se tatouaient, les gens de mauvaise vie, les prostituées, etc. Et puis, pendant très longtemps, dans la maison pénitentiaire, les personnels n'étaient pas tatoués, parce que celui qui était tatoué, c'était celui qu'on surveillait.
C'était interdit pour aller vite.
Il y avait un interdit. Et puis, progressivement, cet interdit, il a été mis à mal, un peu comme dans la police, etc., où les hommes et les femmes se tatouent leur histoire intime, personnelle, sur la peau, c'est-à-dire le nom des enfants, des signes d'appartenance religieuse, etc. Alors, ça devient très intéressant, puisque donc, j'ai proposé, moi, à une promotion d'élèves surveillants, dans les 10 minutes qu'on suivit leur incorporation, c'est-à-dire leur prise la remise de l'uniforme, je leur ai demandé de se déshabiller. Bon, ils étaient un peu interloqués, etc. Je leur ai demandé de me montrer leur histoire intime tatouée sur leur peau. Vous vous souvenez, dans la prison vidée, j'avais beaucoup travaillé sur ces dessins qui passent d'un pot à un mur, etc. Et là, ils ont révélé un ensemble de signes qui sont très intéressants. D'abord, on apprend quoi ? On apprend que les personnels sont, comme beaucoup de personnes aujourd'hui dans la société, tatouées, qui racontent des histoires intimes, le nom des parents, le nom des enfants, mais aussi des signes d'appartenance religieuse ou encore des signes qui appartiennent ou qui appartenaient à des représentations liées à la mafia ou à des gangs, etc. Alors là où ça devient problématique, ou en tout cas questionnant, c'est qu'évidemment pour des corps de l'institution publique, avoir des signes d'appartenance religieuse quand on travaille dans un milieu où peut-être ça peut poser problème. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça déplace un tout petit peu la maîtrise du corps par l'institution, puisque l'individu libéral, on va dire, raconte son histoire et ça déborde dessous l'uniforme, vous voyez. Alors ça pose plein de questions, parce que dans la relation à l'autre, cette fameuse relation à l'autre, qui est la distance professionnelle entre le personnel de surveillance et la personne détenue, eh bien, d'un seul coup, il va y avoir un glissement avec un signe en plus qui permettra et aux uns et aux autres, tantôt, d'avoir une relation de plus de proximité, tantôt difficile à assumer cette distance-là. Parce que quand on sait, par exemple, que certains personnels se font interpeller en dehors de la prison, hein, avec des pressions ou des représailles, etc., il y a tout ce jeu-là qui se met en place. Donc tout est tendu, en fait.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Arnaud Théval explique comment il a travaillé. D'abord, il s'est rendu à l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Il a suivi avec des jeunes futurs gardiens de prison toute la formation. Et puis ensuite, en leur compagnie, il s'est rendu dans une de ces nouvelles prisons, toute neuve, en attendant l'arrivée des prisonniers. Arnaud Théval, pour l'exposition, Un œil sur le dos.
L'orage a éclaté et la pluie tombe sans discontinuer depuis la veille. À la porte d'entrée, la vitre teintée est malgré tout transparente. Les surveillants y évoluent dans une lumière verdâtre comme des poissons dans un aquarium. Je reconnais le surveillant, pas lui, pas immédiatement. Derrière ses lunettes fumées, il m'observe avec hésitation, son corps flotte un peu dans l'uniforme, laissant apparaître le dessin d'un fauve rugissant le long de son cou. Pour son deuxième poste après l'école, il a rejoint cette prison toute neuve et comme les autres, il attend les clients. Cette qualification résonne étrangement à mes oreilles. Pour le moment, tout le monde patiente. Des centaines d'heures d'exercice ont été nécessaires pour réinventer le fonctionnement de la prison. Son silence est anormal, et ses odeurs sont sans saveur. La tranquillité ne fait pas partie du quotidien des agents et ils attendent avec impatience qu'elle s'évanouisse. Le vent porte l'odeur de la pinède, la pluie lave les murs et les surveillants attendent leurs clients voyous, comme on attend celui qui manque. Transféré d'une prison voisine surpeuplée, un premier quart de détenus arrive. Le gradé de l'escorte pénitentiaire se présente au couloir d'enregistrement avec une lourde pile de dossiers. Du côté du greffe, la cohue est indescriptible, la pression optimale. Les cartons et sacs des détenus s'entassent dans le couloir. La première personne détenue arrive. L'air hagard et les yeux écarquillés, il décline son identité, se fait prendre en photo, pose sa main pour le relevé anthropométrique, déclare ses biens, puis il attend dans une petite cellule blanche. Accompagné par un surveillant, deux détenus s'avancent, leur corps vêtu chacun d'un jogging et d'un t-shirt, se déplacent, l'un le dos voûté, l'autre tendu comme un i et la tête en avant. Leurs yeux scrutent autant qu'ils peuvent chaque détail de leur parcours qui les conduit à leur nouvelle cellule. Un dernier détenu arrive, poussant péniblement son chariot. Un surveillant lui ouvre sa cellule. Dedans, son repas du soir a déjà été servi. Carton après carton, il remplit son espace. Plus loin sur la coursive, la distribution des repas se poursuit quand un bruit d'explosion fait tourner toutes les têtes. Un saladier en verre vient de se briser sur le sol. Le dernier détenu a la mine défaite, il est au bord de fondre en larmes, son corps se voûte un peu plus, et les mots qui sortent de sa bouche à profusion sont pleins d'excuses pour les surveillants. Eux ne bougent pas, et regardent la scène, l'air grave. Déjà, il ressort de sa cellule une petite pelle à la main, et à genoux, il ramasse les bris de verre et ravale sa détresse. Son corps est au bord de la rupture, épuisé par l'épreuve de ce déménagement d'une prison à l'autre, d'une mise à nu à l'autre. Le gradé vient de valider l'effectif, il rejoint le groupe de surveillants et tous sortent en laissant derrière eux la détention sans agent. Dehors, la nuit est tombée, les lumières électriques font vibrer les concertinas et sur le sol mouillé, au pied du bâtiment, quelques formes écrabouillées sont apparues. Les détritus viennent d'être jetés par les détenus après le repas du soir. Le gradé raconte qu'il est monté voir les deux seuls détenus donnant sur cet endroit pour leur demander des comptes, mais tous deux en y allaient fait. Le petit groupe s'avance de quelques mètres quand soudain tombent des cellules, les premières insultes, en boucle, dévalent des surveillants enculés ponctués de rires soutenus. Blasé, le groupe de surveillants avance, pas le moins du monde surpris par ce rituel qui, malgré l'effectif famélique, se rejoue là quelques heures après le transfert.
Arnaud Théval, artiste photographe sur France Culture, dans le Réveil culturel, qui nous parle de son exposition « Un œil sur le dos » jusqu'au 23 février à Marseille, à la Friche de la Belle de Mai, qui organise donc un grand événement multiple autour des prisons. Arnaud Théval, est-ce que vous diriez que les nouvelles prisons sont plus humaines, qu'à ce niveau-là, il y a eu des progrès qui ont été faits, que c'est, je ne sais pas si utiliser le terme plus humanisé est le terme exact, mais quel est votre point de vue, vous le photographe, vous qui avez travaillé avec le personnel, mais aussi avec les prisonniers pendant 4 ans?
Alors, je ne sais pas si les prisons sont plus humaines ou moins humaines. Ce que je sais, c'est que les prisons contiennent, et les anciennes et les nouvelles, une énorme part d'humanité dans les relations entre les personnels et les détenus, dans les relations entre les personnels à leur lieu de travail, etc.
Il y a une différence entre les vieilles et les nouvelles ou pas?
Les différences sont fondamentales. Les différences, elles sont d'abord du côté de l'organisation de la pénitentiaire, où finalement les vieilles prisons étaient des prisons qui étaient organisées un peu comme un panoptique. Donc tout était lié par l'architecture, donc il y avait beaucoup moins d'aération, etc. L'organisation du travail permettait au personnel d'être toujours en proximité, forte proximité. C'est la famille de la pénitentiaire, c'est ça un petit peu l'idée. Les nouvelles structures sont plus éclatées pour des questions de plus d'espace, plus de lumière, plus de couleurs. Les personnels travaillent différemment dans les espaces. Donc pour eux, ça a été une quelque chose de compliqué à aborder. Alors, est-ce que ça génère plus ou moins d'humanité ? C'est vrai que les personnels ont été très inquiets par l'arrivée de la caméra dans les établissements, parce que les caméras de surveillance et la dimension très électronique de ces nouvelles structures contrôlent tout. Ils contrôlent évidemment les personnes détenues, mais potentiellement aussi les personnes de surveillance. Et avec un paradoxe génial, c'est que dans les anciennes prisons, il y avait une petite clochette qui pour annoncer qu'on arrivait, il y avait ce son-là. Dans les nouvelles prisons, c'est des caméras qui filment, mais il n'y a pas le son. Donc ça crée des complexités à comprendre ce qui se passe quand il y a un geste qui déborde, quelque chose comme ça, quoi. Alors probablement pour les personnes détenues qui arrivent dans les nouvelles structures, la prison reste la prison, hein, le choc est toujours aussi violent, il n'y a pas beaucoup de changement. En même temps, ils arrivent dans des structures qui sont neuves, donc l'histoire n'a pas encore fait son nid et n'a pas encore travaillé ça. Je serais curieux de voir qu'est-ce que dans 10 ou 15 ans, comment ces structures, ces fameux PPP, deviendront.
PPP ?
Partenariat privé public.
Un œil sur le dos, c'est l'intitulé de votre exposition. Pourquoi cet intitulé, Arnaud Théval ?
Un œil sur le dos, l'idée, c'est de bien comprendre que le personnel de surveillance est constamment observé. Il a cette mission de surveiller, d'accompagner à la réinsertion. Et en même temps, c'est un espace de travail où tout le monde le regarde, lui, à la fois les détenus, à la fois la hiérarchie, à la fois les médias, elle a une très grosse pression des médias, et la société. Donc un œil sur le dos, c'est cette permanence du regard de la société sur celui qui a la charge, notre délégation de d'accompagner les personnes dans leur détention. Et cette pression-là est très forte. C'est une pression qui est intéressante parce que du coup, évidemment, il y a ce regard qui permet de rendre moins obscur finalement ce qui se passe là-bas. Et en même temps, c'est une pression sociale incroyable qui peut-être empêche d'aller chercher certains récits de ce qui se déroule dans ces murs.
Vous avez compris pourquoi ces jeunes ont voulu exercer ce métier, Arnaud Théval ?
Alors, pour faire un peu de sociologie, là, pour le coup, hein, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans la pénitentiaire avec l'ambition d'avoir un métier fixe, un salaire fixe. Ils rentrent dans l'institution publique, il y a une réelle fierté de rentrer dans cet espace-là. Ils ont réussi quelque chose. Après, il y a également des personnes qui viennent de l'armée. Donc, il y a des anciens militaires qui arrivent sur ce terrain-là, etc. Et puis, il y a quelques fils d'eux, de fils de surveillants. Il y a une petite transmission, parfois, qui existe aussi. Ils y arrivent non pas par conviction, mais ils se forgent une conviction autour d'une réelle passion du métier. Ça, c'est assez étonnant. Alors, pas tous, pas tout le temps. Mais c'est très étonnant de voir à quel point on est loin de comprendre ce que la prison fabrique sur ces individus-là et à quel point, dedans, il se passe quelque chose de bouleversant. Moi, j'ai dit le mot poétique et je le redis. C'est-à-dire comment les relations humaines qui sont terriblement fortes en prison travaille ses personnels et réciproquement. Alors parfois ça les travaille dans une violence infernale, hein, parce qu'il y a des établissements où c'est très très compliqué, et à d'autres endroits ça génère une espèce d'humanité invraisemblable.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Un œil sur le dos d'Arnaud Théval, l'exposition dure jusqu'au 23 février à Marseille, à la Friche de la Belle de Mai, qui organise donc un grand événement autour des prisons, avec des expositions, deux expositions, hein, celle de Bettina Reims, consacrée aux femmes détenues, celle d'Arnaud Théval, on en a parlé, mais il y a aussi des rétrospectives de films produits et réalisés depuis la prison des Baumettes par Caroline Cacaval et Joseph Cesarini, et bien sûr des rencontres, des débats. Tout le programme de cette manifestation Prison Miroir est à retrouver à la page de l'émission Le Réveil Culturel sur franceculture.fr.
France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture et le cinéma Majestic Bastille à Paris présentent les séances France Culture. Rendez-vous ce soir à 20h pour la projection du film « La vie invisible » de Ridis Gusmão, prix Un certain regard au Festival de Cannes, suivi d'un débat animé par Antoine Guillot, producteur à France Culture. Eurydice et Guida sont deux sœurs inséparables. Elles rêvent, l'une d'une carrière de pianiste, l'autre du grand amour. Séparées, elles prendront en main leur destin sans jamais renoncer à se retrouver. Plus d'infos et réservations sur le site lesecransdeparis.fr. France Culture présente l'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo.
1872, un explorateur français dilettante, une espionne belge et un philosophe bantou remontent le fleuve Congo à la recherche d'un savant disparu. Entre récits d'aventure et histoire coloniale, France Culture propose une série haletante à télécharger en 10 épisodes.
Vous aurez des ennemis redoutables.
Mais ne vous méprenez pas sur vos véritables ennemis.
Vous voulez parler
des Belges, Tréguier?
Une série d'aventures en partenariat avec la SACD à écouter au casque en son immersif, en exclusivité sur franceculture.fr et les plateformes de podcast.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Manque d'entretien des cours d'eau, bétonnage à outrance. Les habitants du sud-est de la France tentent de comprendre. En quelques jours, 6 personnes y sont mortes pendant les intempéries. Nous irons sur place dès le début de ce journal. Reportage ensuite à Washington, où les défenseurs d'une meilleure régulation des armes à feu se sont réunis hier soir. Ils attendaient une décision de la Cour suprême à ce propos. Et puis, pourquoi le fait de décrire l'antisionisme dans une proposition de résolution qui vise à mieux lutter contre l'antisémitisme? Pourquoi cela pose-t-il question? Argument des pour et des contre dans cette édition. Les inondations à répétition sur la Côte d'Azur auraient-elles pu être évitées? Après avoir subi 2 montées des eaux en 8 jours, certains sinistrés posent la question, notamment dans le quartier du port de Mandelieu à Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Des habitants s'interrogent sur la lenteur de la construction de bassins de rétention, Jérôme Jadot.
Les inondations à répétition, la faute à une urbanisation galopante, reprochent certains sinistrés, le tout bitume et tout béton qui favorise les accumulations d'eau dans la ville. Christian habite le quartier du port, 3 fois inondé depuis 2015.
Au lieu de refaire un village tout beau, tout neuf pour les touristes, ils font pas les travaux pour ceux qui sont là à l'année et on a toujours les pieds mouillés en hiver, quoi. S'ils veulent garder les gens du village, il faut qu'ils fassent quelque chose. Parce que le bac de rétention n'a toujours pas été fait.
Le bassin de rétention, c'est un projet lancé en 2011, un réservoir en quelque sorte pour recueillir le trop-plein d'eau. Mais s'il n'est pas encore construit, selon le maire LR Sébastien Leroy, c'est à cause du législateur.
La loi française oblige une quantité monstrueuse de données, de travaux préalables pour convaincre différents services, qui fait que malgré la volonté des élus locaux, des agents de l'État sur le terrain, rien n'avance parce que c'est la loi et qu'on perd des décennies à suivre des règles qui sont datées du siècle dernier, très clairement.
Selon le maire, c'est également à cause de la paperasse et des procédures qu'est retardée la mise en place de protections étanches autour des copropriétés. Il espère pouvoir les réaliser l'été prochain.
Et plus au nord, dans les terres, entre Manosque et Sisteron, dans la commune d'Aimé, un rocher s'est effondré hier. 2 personnes ont été légèrement blessées. Au total, depuis le week-end, je vous le disais, 6 personnes sont mortes. Une femme est toujours recherchée ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est brièvement rendu dans la région hier soir. Ce mardi, le président de la République, Emmanuel Macron, est à Londres pour le sommet de l'OTAN qui doit durer 2 jours. Ce 70e anniversaire de l'organisation s'annonce tendu, notamment en raison des divergences entre 3 des principaux acteurs de l'Alliance Atlantique, le Français Emmanuel Macron, l'Américain Donald Trump et le Turc Recep Tayyip Erdogan. Ambiance d'autant plus crispée qu'hier soir, l'administration Trump a menacé d'imposer des droits de douane additionnels sur des produits français, des surtaxes pouvant aller jusqu'à 100%. Il s'agit d'une réponse à l'instauration en France d'une taxe sur les géants américains du numérique. Les États-Unis, où la Cour suprême se penchait hier et pour la première fois depuis près de 10 ans sur la question des armes à feu. Les 9 magistrats, conservateurs en majorité, n'ont rien décidé sur le fond hier, mais les militants pour un plus grand contrôle des armes à feu dans ce pays, les militants étaient présents pour faire entendre leur voix hier. C'est un reportage de Grégory Phillips.
Avec sa pancarte sur laquelle est écrit que les lois sur les armes sauvent des vies, George est venu manifester devant cette Cour suprême sous les fenêtres des 9 magistrats les plus puissants du pays. S'il est là, c'est aussi pour témoigner.
2 membres de notre famille se trouvaient chez eux quand un gamin de 17 ans est venu frapper à leur porte et leur a tiré dans la tête. C'était en 2008. Ce jeune a été arrêté et condamné à la prison à vie dans un pénitencier au Texas. Toute cette histoire nous a anéantis, mais le combat pour un contrôle plus fort des armes à feu nous a permis de nous relever.
Les dernières enquêtes d'opinion montrent que plus de 60% des Américains sont favorables à un contrôle accru accru des armes à feu, avec une proportion beaucoup plus forte chez les électeurs démocrates que chez les républicains. Mais pour la présidentielle de l'an prochain, George, le Texan, espère que la question des armes sera centrale et portée par le camp démocrate.
Oui, je suis certain qu'ils en feront un sujet de débat, et ça, c'est grâce à notre mobilisation.
Hier, la Cour suprême devait se prononcer sur une loi de l'État de New York qui limitait drastiquement le droit de circuler en ville avec une arme. Mais les 9 juges n'ont pas tranché sur le fond et ont reporté leur décision à l'été 2020, environ 4 mois avant l'élection présidentielle.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Le jour où la Banque centrale annonce un effondrement de l'activité économique chilienne, le gouvernement du Chili présente un plan de relance. 5,5 milliards de dollars en plus pour le budget de l'année 2020. Voilà donc le plan proposé hier par le ministre des Finances chilien. Depuis un mois et demi, je vous le rappelle, le pays vit une crise sociale inédite. Nous irons sur place lors du journal de 7h. À 6h35 sur France Culture, continuons ce journal avec un débat qui anime les rangs de l'Assemblée nationale et plus encore. Les députés examineront aujourd'hui une proposition de résolution visant à lutter contre l'antisémitisme en modifiant sa définition. Ainsi, l'antisionisme, la critique envers Israël, est ajoutée. Pierre Tartakovko est président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme et il le regrette. Il évoque un texte étrange et malvenu.
Cette définition qui est proposée est accolée à un certain nombre d'exemples qui ont pour caractéristique commune de tracer un trait d'égalité entre l'État d'Israël et les communautés juives ou les juifs. Ça, c'est évidemment très très embêtant parce que d'abord c'est une assignation à résidence extrêmement autoritaire, discriminatoire, de tas de gens qui sont juifs, ou qui se sentent juifs, ou qui sont d'origine juive et qui ne se reconnaissent absolument pas dans la politique menée par l'État d'Israël. Et d'une certaine façon, ça peut aboutir à se retourner en son contraire. Nous avons plutôt besoin d'universalité et certainement pas de repli ou de division supplémentaire.
C'était Pierre Tartakovsky, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Voici maintenant la réponse du député de Paris, Sylvain Maillard. Il préside, lui, le groupe d'études à l'Assemblée nationale sur l'antisémitisme et il soutient la proposition d'Emmanuel Macron.
Évidemment qu'on pourra et on devra continuer à critiquer les gouvernements israéliens, quels qu'ils soient, et sur tous les aspects, y compris sur les frontières. En aucun cas, cette résolution ne remet en cause ceci. La seule chose que l'on dit, c'est qu'on ne peut pas remettre en cause l'existence même de l'État d'Israël pour attaquer directement nos compatriotes juifs en estimant que, en fait, un Français juif est avant tout un Israélien. Ça, c'est de l'antisémitisme et ça, on doit le combattre.
Des propos recueillis par Pierre Neveu. Les professionnels du BTP vont consulter leur base. Après avoir obtenu hier des avancées sur plusieurs de leurs revendications, ils étaient à Bercy. Ils n'ont en revanche pas eu de garantie concernant la suppression de l'avantage fiscal pour le gasoil non routier. La CFDT Cheminots appelle ses militants à rejoindre la grève de jeudi contre la réforme des retraites, une grève reconductible, faute d'engagement du gouvernement, voilà ce que souligne le syndicat, qui rejoint donc la CGT Cheminots, l'UNSA Ferroviaire et Sudrail. En bref, encore, notons que Sylvie Goulard a été mise en examen. L'ancienne ministre est soupçonnée d'avoir détourné des fonds publics. Il s'agit toujours de l'affaire des postes d'assistants parlementaires du Modem, des postes présumés fictifs. La France a désormais son conseil de déontologie journalistique. Une instance critiquée par une partie de la profession qui promet pourtant d'être une solution à la défiance du public vis-à-vis des médias. Sorte d'instance d'autorégulation et de médiation comme il en existe déjà dans certains pays européens. Elle débute donc en France et devra d'abord prouver son utilité et son indépendance, Maxime Tellier.
L'heure est trop grave aux yeux des partisans du Conseil de presse. La défiance des Français à l'égard des médias est trop haute. Il faut donc trouver des solutions. Laurent Mauriac est le président de BriefMe, un média qui explique l'actu tous les soirs par email. Et lui va adhérer au Conseil en tant qu'éditeur.
On est en relation très étroite avec nos lecteurs et on constate qu'il y a énormément de défiance et que souvent, derrière cette défiance, il y a des malentendus, il y a une méconnaissance du fonctionnement des médias et que le dialogue est vraiment un outil indispensable.
Même constat pour la journaliste Jennifer Deschamps du collectif Informé n'est pas un délit. Elle garde en tête tout de même les critiques adressées par sa profession à cette nouvelle instance.
Pour nous, c'est important en fait d'être présent au sein des travaux, en fait d'être un moteur positif. On est aussi là en tant qu'observateur parce qu'on est tout à fait conscient des critiques qui sont émises vis-à-vis de ce conseil de déontologie. La politique de la chaise vide, c'est pas une bonne politique.
Une position inverse à celle de la Société des journalistes de Mediapart à l'initiative d'un communiqué très critique à l'égard du conseil de presse et signé par une vingtaine d'autres SDJ. François Bonnet, journaliste à Mediapart, était présent hier.
On ne peut pas parler de manière abstraite de déontologie. Il faut parler de choses beaucoup plus précises. La question de la propriété des médias, la question de la transparence sur les comptes des journaux. Pourquoi de grands journaux, propriétés de milliardaires, reçoivent-ils des millions et des millions d'euros chaque année de subventions directes?
Pour François Bonnet, le contexte français de concentration des médias ne permet pas un fonctionnement efficace de ce conseil qui sera tripartite. Journalistes, éditeurs et publics seront représentés. Mais pour l'instant, aucun grand média n'a encore rejoint cette instance.
C'était Maxime Tellier pour France Culture. La vigilance orange sur le sud-est est levée ce matin alors que débute une journée sans pluie. Une journée sèche mais brumeuse ce matin. Le soleil brillera sur l'ensemble du pays cet après-midi. D'ici là, comptez 1 degré à Besançon et Lille, 2 degrés à Lyon et Bordeaux, 3 à Paris, 12 degrés ce matin à Nice. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Exceptionnellement, nous ne retrouvons pas Jacques Munier ce matin qui est absent pour son journal des idées. Exceptionnellement, mais nous retrouvons Antoine Dulster. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Vous nous rejoignez-vous pour les enjeux internationaux qui vont durer une demi-heure. Et vous vous penchez ce matin sur les droits humains au Mexique.
Oui, c'était un an après l'entrée en fonction du président López Obrador. C'était le 1er décembre 2018, l'arrivée au pouvoir de cet homme de gauche, à contre-temps de la tendance générale en Amérique latine, avait suscité de grands espoirs dans un pays, le Mexique, ravagé par la violence depuis de nombreuses années. Andrés Manuel López Obrador, surnommé AMLO par ses partisans, avait annoncé d'emblée que son mandat présidentiel constituerait la quatrième transformation dans la longue histoire de ce pays. La quatrième transformation après l'indépendance, la réforme et la révolution de Villa et Zapata. Mais au bout d'un an, des doutes apparaissent déjà sur sa capacité à gérer les affaires de la deuxième économie de l'Amérique latine, à commencer par l'épineux dossier de la violence. Violence des cartels de la drogue et du crime organisé, violence aussi de certaines unités des forces de sécurité. La population paie le prix très lourd, plus de 28 000 morts depuis janvier 2019. Un chiffre qui est en augmentation depuis l'an dernier et la tendance ne semble pas devoir s'inverser. Le gouvernement mexicain peut-il et veut-il vraiment changer la donne en matière de droits humains au Mexique? On en parle avec vous, Alain Musset, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, vous êtes géographe, directeur d'études à l'EHESS. Alors, et spécialiste du Mexique, les chiffres de la violence que je donnais il y a un instant au Mexique sont très mauvais. Le président et le gouvernement ont-ils pris, au bout d'un an, selon vous, toute la mesure de ce problème?
Alors effectivement, les chiffres sont épouvantables même, et très récemment, encore ce week-end, il y a eu un affrontement entre les corps de la police et des narcotrafiquantes, et ça a fait une vingtaine de morts. Et c'était juste au moment, effectivement, pour le 1er décembre et donc pour le premier anniversaire, en fait, de la prise de pouvoir. Et ça, c'est très, très difficile pour lui. Les chiffres sont mauvais, et alors qu'il avait annoncé parmi ces grandes mesures une baisse de la violence en changeant complètement de stratégie. Il disait, et à juste titre, ce n'est pas la confrontation qui va apporter la paix. L'usage de la force entraîne la force. Je vais ouvrir les bras. Il avait même promis une sorte d'amnistie, un petit peu comme en Colombie pour les FARC, ce qui avait fait réagir de manière parfois extrême une grande partie de la population. Et on voit que ça ne donne absolument rien. On va atteindre sans aucun doute pour cette année à nouveau un record. Il faut voir que depuis 2006, c'est-à-dire depuis le moment où l'État mexicain a déclaré la guerre aux narcotrafiquants, on est presque à 300 000 morts. Ça paraît invraisemblable dans un pays qui se dit en paix. Et en plus, il y a toute une autre délinquance, les enlèvements, les vols, etc., etc. C'est un bilan effectivement catastrophique.
Alors, vous parlez donc de ces 300 000 morts depuis la guerre effectivement contre le narcotrafic qui avait été lancée par le président Felipe Calderón fin 2006. Un an donc de mandat pour Andrés Manuel López Obrador. Est-ce que c'est prématuré de faire peut-être un bilan de sa stratégie de sécurité? Il essaie de se démarquer de ses prédécesseurs. prédécesseurs. Donc, vous l'avez dit, Alain Musset, moins de confrontation, plus de volonté de pacifier le pays avec la création d'une garde nationale qui remplace la police fédérale. C'est symbolique, ce type de mesure. Est-ce que ça peut vraiment avoir des effets, cette garde nationale au Mexique?
Alors, l'idée de la garde nationale faisait partie de son programme. Et effectivement, ça partait d'un point très simple, à savoir que la corruption avait gangréné une grande partie des institutions mexicaines et aussi une partie de la police. Donc, on fait table rase, on crée un nouveau corps qui va permettre de purger un petit peu les comptes, avec une idée de base qui était que normalement la garde nationale devait être dirigée par des non-militaires. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. La garde nationale est en fait une sorte maintenant de dépendance de l'armée. À partir du moment où c'est une dépendance de l'armée, beaucoup d'opposants se disent « mais où est la différence ? On ne voit pas ce qui a changé. » Et il y a toujours de grandes confrontations. On l'a vu avec, comme je l'avais dit ce week-end, un affrontement. Et avec quelque chose qui a beaucoup frappé l'opinion publique, c'est quand un groupe des forces gouvernementales s'est emparé du fils aîné du Chapo, El Chapo Guzman, qui est à l'heure actuelle en prison aux États-Unis, et que son cartel a mis Culiacán, la ville, à feu et à sang pour obtenir sa libération, et il a obtenu, et même lui, même AMLO, même López Obrador a dit que l'État mexicain avait dû se mettre à genoux devant les narcos. Si ça, ce n'est pas un constat d'échec, que faut-il penser?
Oui, la vulnérabilité de l'État est apparue au grand jour, effectivement, dans cet épisode. Vous le rappeliez, c'était effectivement la capture très brève de Ovidio Guzman. Alors, au-delà de cette violence très, très grande des narcos, l'ONG Amnesty International publie un rapport intitulé « Quand les paroles ne suffisent pas », justement pour caractériser ces insuffisances du gouvernement, à la fois dans la lutte contre la violence et dans la gestion des questions relatives aux droits humains. Je vais citer ce rapport, Alain Musset. Le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador a montré une volonté de faire avancer certains dossiers, surtout en ce qui concerne la question des disparitions dans le pays. Cependant, un an après la prise de fonction de ce gouvernement, aucun changement significatif n'a pu être observé dans le quotidien des millions de personnes confrontées à une très grave crise en matière des droits humains depuis plus de 10 ans. Ce sont des mots très durs et ils viennent de Amnesty International. Alain Musset, est-ce qu'en termes de droits de l'homme, de la même manière, on n'a pas là une conséquence obligée de cette impossibilité de faire reculer la violence?
Eh bien oui, effectivement, il faut dire que López Obrador a hérité d'une situation désastreuse. Et il l'a dit lui-même, tout à fait récemment, il a dit « c'est pas au bout d'un an que je réussirai à changer les choses », et notamment cette fameuse quatrième transformation dont vous avez parlé dans l'introduction. Donc il a besoin de temps, mais les gens commencent à s'impatienter. Entre janvier et octobre, ce sont mes derniers chiffres, donc 2019, il y a presque 1700 personnes qui ont été enlevées au Mexique, alors que normalement on s'attendait à une baisse de la tension. Ça aussi, c'est un échec, mais qui est un échec qui va avec tout le reste. À l'heure actuelle, le Mexique est au bord de la récession économique. Le taux de croissance, il est autour de 0,1. Il n'a pas les moyens d'engager une grande politique de rénovation sociale qui aurait dû être la base de son programme pour contenir la violence, parce que, et là encore une fois, il a raison, une grande partie de cette violence est due au fait qu'il y a une très mauvaise redistribution des richesses au Mexique, de très fortes inégalités, qu'il est toujours plus facile pour un gamin de devenir un sicario, c'est-à-dire un
criminel, un narcotrafiquant,
d'un cartel, que d'aller à l'école et de progresser. Donc son idée, c'était on va améliorer toutes les conditions générales de vie des Mexicains et des Mexicaines. Et là, dans les droits humains, c'est quelque chose, à mon avis, qui est fondamental, parce qu'on se fixe toujours sur la violence et on a oublié que derrière, il y avait cet énorme passif des inégalités. Et il a dit « je vais lutter contre les inégalités ». Et là, effectivement, on peut dire « il y a beaucoup de paroles et il n'y a pas encore assez d'actes ». Pourtant, il a lancé des choses. Pour le prochain budget, il a prévu 13 milliards de dollars pour les dépenses sociales. Si ça, ce n'est pas un signal fort, que faut-il attendre? Donc, il ne faut pas, je crois, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai qu'il a des problèmes. Ça ne correspond pas exactement au programme qu'il avait annoncé, mais il essaye quand même de faire des choses.
Alors, sur un plan plus politique, Alain Musset, j'aimerais vous entendre sur vraiment ce que dit l'ONG Amnesty International. Les paroles ne suffisent pas. Là, c'est une qualification politique. Je crois qu'on peut le dire, c'est une allusion à un rituel présidentiel qui s'est instauré depuis un an. La conférence de presse quotidienne matinale du président, c'est un exercice dans la grande tradition latino-américaine. Hein. On pourrait presque, depuis la France, taxer cet exercice un petit peu de populisme. C'est un exercice d'ailleurs qui est critiqué par la presse indépendante au Mexique même, notamment par la revue Proceso. Est-ce que, je le disais, dans une grande tradition latino-américaine, il n'y a pas aussi une relation un peu ambivalente avec les défenseurs des droits de l'homme, avec la presse qui ne lui serait pas complètement favorable, Alain Musset?
Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une tradition latino-américaine. Disons le mot, le populisme n'est pas une invention de l'Amérique latine. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que cette tradition que lui a instaurée maintenant au Mexique, de ses émissions de radio quotidiennes avec lesquelles il peut parler directement au peuple, c'est directement inspiré du Venezuela d'Hugo Chavez. Et ça, c'est un reproche, vous faites du chavisme. Et c'est aussi une tendance qui permet de dire, regardez, il passe à côté des pouvoirs institués, il passe à côté de tous les organismes qui normalement devraient créer le contact entre l'État et le peuple pour incarner lui-même le peuple. Et donc, il y a une tendance autoritaire, autocratique, qui est d'un certain côté assez nouvelle au Mexique. Parce que quand il y avait le parti révolutionnaire institutionnel au pouvoir, le président était effectivement quelqu'un qui avait à peu près tous les pouvoirs, mais un pouvoir qui était, je dirais, déconcentré dans toute la République. Là, il devient la personne, l'interlocuteur principal pour tout le monde. Donc, c'est un reproche qu'on lui fait, mais c'est un reproche qui est en même temps lié effectivement à son regard sur les mouvements sociaux. Il a lancé l'idée que les mouvements sociaux étaient en fait des mouvements réactionnaires et de droite, pour pouvoir se défendre. Et là, bien entendu, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas du tout d'accord. Par exemple, le grand poète Javier Sicilia, qui est le fondateur, enfin un des fondateurs du
personnalité mouvement importante de la société civile tout à fait au Mexique, qui a lancé le mouvement pour la paix et la justice avec dignité.
Voilà, qui a d'ailleurs refusé de participer à la marche du 1er décembre, contre AMLO. Comment peut-on qualifier Javier Sicilia de personne liée aux conservateurs? Donc il y a chez AMLO une volonté de créer des clivages qui sont et qui risquent de devenir de plus en plus forts, même s'ils bénéficient toujours d'une grande popularité. Il a toujours plus de 50-55% des Mexicains qui sont à sa faveur.
Et même Alain Musset, 70% selon certaines enquêtes. Alors dans ces secteurs de la société civile qui sont un peu sceptiques par rapport au premier bilan du président AMLO au Mexique, il y a la question des luttes, des droits des femmes, la question du féminisme. On dit le président un petit peu conservateur sur ces questions, et en tout cas il s'est fait critiquer sévèrement après une conférence de presse dans laquelle il aurait demandé expressément aux femmes de manifester sans violence pour leurs droits. Dans un pays, le Mexique, où les féminicides sont extrêmement importants et une plaie vraiment dans ce pays, est-ce que le président mexicain, selon vous, est conservateur ou en tout cas pas en mesure de garantir les droits des femmes, encore une fois très menacées dans ce pays, selon vous?
Alors, les droits des femmes sont non seulement menacés, mais le Mexique est un des pays où le taux de féminicide est le plus important au monde. Donc là encore, López Obrador hérite d'une situation qui n'est franchement pas bonne. Ceci dit, il a des positions, on peut le dire, d'un certain côté conservatrices. Il ne faut pas oublier qu'il n'est pas jeune. Donc il est d'une autre génération, et en plus il a été formé au PRI. Hein, c'est quelqu'un qui est d'un certain...
Donc le prix, on disait, le Parti révolutionnaire institutionnel qui a gouverné le pays sans interruption entre 1929 et l'an 2000, puis de nouveau avec Enrique Peña Nieto à partir, donc si ma mémoire est exacte, entre 2012 et 2018. Donc effectivement, un parti très important dans ce pays.
Oui, c'est un parti très important et finalement, il a été formé là. Et donc, il a ses capacités, je vais dire, qui sont un petit peu limitées par sa formation. Ceci dit, il a favorisé l'élection de Claudia Sheinbaum, donc une femme à la tête de la ville de Mexico. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et récemment, il a présenté aussi un accord pour l'égalité de genre présenté par l'Institut national de la femme. Et là, il y a encore une fois une volonté politique pour résoudre ces problèmes. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est encore qu'une déclaration d'intention. Dans les faits, on ne voit pas la différence entre ce qui se passait avant et ce qui peut se passer maintenant ou dans un futur proche.
Alors, on parle toujours des droits humains au Mexique, hein, à un an de la prise de pouvoir de Andrés Manuel López Obrador. Avec vous, Alain Musset, impossible de parler de ces dossiers des droits humains dans ce pays sans parler de la question migratoire qui pose des problèmes au gouvernement, hein, qui a été contraint de coopérer avec les États-Unis, puisque en juin dernier, Donald Trump avait menacé d'imposer des barrières douanières la prise en charge de cette question n'était pas effectuée par le Mexique, ce qui a abouti à une militarisation notamment de la frontière sud sous l'impulsion d'Andrés Manuel López Obrador, et là encore avec des critiques des ONG et des défenseurs des droits humains. Quelle marge de manœuvre il a sur ce dossier, Alain Musset, entre la frontière des États-Unis et l'Amérique centrale, avec une question migratoire qui se fait très pressante pour le pouvoir mexicain?
Eh bien, il faut dire ce qui est, quand vous négociez avec un pistolet sur la tempe, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Et c'est ce qui s'est passé avec López Obrador et Trump. Alors, il a dit maintenant que c'était pacifié, que tout s'entendait, qu'on s'entendait très bien, qu'il y avait même amour y pas, hein, de l'amour et de la paix entre les deux. En fait, on sait que ce n'est pas vrai. Et Trump a réussi à faire du Mexique sa véritable frontière sud. Mais ça, depuis 2006 déjà, il y avait cette intention. La marge de manœuvre est très faible, mais le problème, c'est qu'il avait dit qu'il allait changer complètement, que le Mexique allait accueillir les gens, qu'on allait leur donner des possibilités soit de travailler, soit de passer et d'aller de l'autre côté, à l'autre lado, hein, c'est-à-dire de l'autre côté de la frontière avec les États-Unis. Il a été obligé de mettre un frein et de faire un tour complet sur lui-même pour répondre à cette demande américaine. Donc là aussi, il y a un vrai problème qui se double d'un autre problème, qui est le problème qu'on a tendance à oublier, parce que le subcomandante Marcos, vous vous en souvenez, c'est cet intellectuel qui a lancé la révolte au Chiapas, il y a le problème indigène aussi. Et ce problème indigène est un problème latent dans la société mexicaine où...
Il complique effectivement la question pour la gestion des droits humains dans ce pays, qui reste un dossier dont on parlera sur cette antenne de France Culture ces prochains mois et ces prochaines années, évidemment. Merci beaucoup, Alain Musset, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'EHESS et spécialiste du Mexique.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition « Huit semences » de Degas à Grunewald, sous le regard de l'artiste Francesco Vesoli. Huit semences a été un des critiques d'art les plus déterminants de son époque. Pionnier de la défense de la peinture moderne auprès du grand public, il a notamment fait découvrir les œuvres de Manet et Caillebotte. Il affichera ensuite un goût prononcé pour le symbolisme, Moreau, Redon, et pour le décadentisme avant de se convertir au catholicisme. Huit semences, critique d'art, jusqu'au 1er mars au Musée d'Orsay à Paris. Un partenariat France Culture.
Il est 6h57 sur France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Antoine Dulster, ravi de vous retrouver.
Votre humeur du jour, que dire des grèves à Radio France?
Pas grand chose, il est toujours difficile de parler de soi, des sujets qui vous concernent. Je ne vais donc pas commenter la phrase en raison d'un appel à la grève émanant de l'ensemble des organisations syndicales, etc. Je ne voudrais pas non plus commenter la programmation musicale de grève. D'aucuns ont même entendu du « l'enfoiré » sur la playlist, désolé, hein, c'est son nom. Une nouveauté toutefois, la notion de journal dégradé, c'est plutôt récent, quelques années, pas plus. Le journal dégradé n'étant pas un journal utilisant 50 nuances de gris, mais un journal raccourci par temps de grève. Alors toujours dans le folklore de la grève, vous trouverez tribune, pétition expliquant les motifs des uns et des autres. Et puis, puisque les auditeurs s'expriment par différents canaux, vous allez trouver désormais des tweets. Alors par exemple celui de Louis G qui dit « Grève à France Q, j'ai troqué mes reportages sur les migrants queer azerbaïdjanais et l'intersectionnalité sous la seconde restauration pour les pubs pour les sofas dans le 15e sur Radio Classique, je ne suis pas déçu ». Alors là, je m'inscris en faux Antoine, parce que cet auditeur, à mon avis, n'a pas entendu France Culture depuis longtemps. On peut aussi regarder ce site, vous savez, Regard FC, ce site qui a transformé le discours sur notre radio en une forme de licence poétique. Il a rédigé le commentaire suivant, juste avant le début de la grève. Enfin, une bonne nouvelle en provenance de Radio France et de France Culture. Un mouvement de grève va toucher les antennes à partir de lundi. Alors pour le reste, les avis ont été quand même très équilibrés entre pro et anti-grève. Viviane qui écrit « Facile de faire grève quand on est un service public, emmerder les auditeurs vous amuse ». Françoise qui nous dit qu'elle est très mécontente de cette grève. Je cite « Inadmissible, non seulement vous avez la sécurité de l'emploi, mais aussi des avantages et des salaires conséquents par rapport à de nombreux Français, surtout ceux nombreux qui sont en difficulté de toutes sortes », explique Françoise. Mais il y a aussi les auditeurs qui se déclarent solidaires. Et je ne peux pas vous dire quel camp était le plus représenté, mais on peut par exemple lire bien le message suivant. Je soutiens la grève à 200%. Une bonne radio, c'est des gens compétents, formés et motivés. C'est pas cher pour toute la richesse proposée. Ou bien encore, évidemment, je vous excuse, je vous encourage, je reste toute l'année sur votre fréquence et je reste encore en temps de grève heureux d'entendre que vous êtes unis, explique Jean-Jacques. Qui ont bien encore ce message. À près de 80 ans et après 40 ans de fidélité à France Culture, je suis de tout cœur avec vous dans cette grève contre les diktats de notre gouvernement. Voilà, maintenant, camarades auditeurs, vous pouvez choisir votre camp ou bien choisir de ne pas en avoir, puisque vous avez aussi le droit d'être sans opinion.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
Et oui, et en attendant, il est déjà 7h sur France Culture et aux environs de 7h40, on parlera de la situation en Algérie, l'Algérie aujourd'hui avec Jean-Pierre Filieu et puis l'Algérie d'hier avec Jacques Attali. 7h, bon réveil à tous sur France Culture.